Donc, nous allons donc passer à vos questions. Pendant que vous y réfléchissez, je voudrais rappeler celles et ceux qui ont emprunté un casque de ne pas oublier de le rendre. Donc, vous pouvez le rendre des deux côtés, enfin des deux sorties. Voilà, surtout, ne pas oublier de rendre vos casques. Voilà, donc, à vous de jouer.
Perfectly clear of the work of genius.
Qu'est-ce que le cis genre? C'est une personne, un homme par exemple, qui a été assigné à l'identité sexuelle mâle à sa naissance et qui n'a jamais. Et qui se sent tout à fait à l'aise dans cette assignation, qui a grandi en tant qu'homme et qui se sent très bien en cette santé par opposition à trans. Merci Kylie, c'était très intéressant. Il y a eu, bien sûr, plein de façons d'être mal à l'aise avec la zone d'aliénation. J'aimerais juste que vous expliquiez un peu mieux comment vous arrivez vers cet espace privatisé du soi. Dans les manuscrits de 1844, il y a quatre types de d'aliénation, et c'est à chaque fois des formes d'aliénation dans le travail. Ce que Marx disait, c'était l'idée post-kantienne, si vous voulez, l'autonomie de l'être humain. C'est kantien, cette idée de l'autonomie. Et Marx est un autonomiste, mais que à travers l'idée du travail, à travers le travail, donc le travail physique avec le matériel, les outils et l'association collective libre. Donc c'est de là qui tire des éléments de la rationalité privée kantienne. Et pour moi, tu es allé un peu vite pour faire la déduction que par conséquent, on parle du soi domestique, privatisé. Je ne vois pas qu'on peut faire aussi facilement le saut. Est-ce que tu n'as pas lu mon livre? Ça vient de la critique féministe du travail et de cette idée de travail productif et non productif, et que cette division genrée du travail ou productif, non productif ont été assignées historiquement. Donc lorsque le travail entre dans l'espace domestique, lorsqu'on fait ce genre de travail dans l'espace domestique, se faire soi-même devient une sorte de travail. Et donc dans les relations interpersonnelles, la sexualité devient travail productif finalement. Et c'est le genre de critique que de nombreuses féministes marxistes font. Cette question du travail place la question du travail dans ce contexte. Voilà. Notamment parce que l'idée que c'était toujours considéré comme dehors, c'est à l'extérieur, tout ça pouvait arriver. Non. Et aussi en relation avec d'autres économies. Ce n'est pas forcément un recours à Marx, mais dans les économies du don, par exemple, tout le monde est capable de manifester son être générique. Mais bien sûr, on parle de gens qui ne sont pas des hommes bien portants, etc. Le don, par exemple, dans les économies du don, le genre d'autres races qui étaient données, par exemple. Enfin, voilà. Donc on refuse ce partage-là, ce partage binaire. Hein. Voilà pour la relation entre le travail et ce que je disais. C'est comme ça que j'y suis arrivé. C'est dans mon livre, si tu veux creuser. Je n'ai pas lu le livre. Je ne comprends pas le lien entre le sujet autonome, qui historiquement était associé à la production du soi bourgeois, et le travail. C'est cool. Où est le lien? Je ne vois pas le lien. Donc le travail domestique n'a jamais accès à l'individu, à la propriété de soi, jamais. Et donc, parce qu'il n'y a pas de contrat, comme il n'y a pas de contrat, il n'y a pas de possibilité d'avoir accès à cette subjectivité-là. Et donc, à ce genre de soi. Donc, il y a quelque chose que je manque, moi, je crois aussi. Non, voilà, c'est exactement ce que je dis. C'est que l'idée que se faire soi-même, ça veut dire que vous avez un espace où le travail n'est pas marchandisé, réduit à l'état de marchandise. Donc faire du travail domestique, du travail de care, etc., qui est censé être en dehors du capitalisme, l'idée d'un espace où il y aurait cette possibilité d'un sujet autonome. Mais en fait, c'est un mensonge. Cet espace n'a jamais existé. Donc voilà, c'est ce que je dis. Il y avait l'idée qu'en dehors du capitalisme, on était plus autonome dans l'espace domestique et privé. Mais en fait, pour les femmes, ce ne fut jamais le cas, parce qu'on n'avait pas ce genre d'accès à l'autonomie. Donc il n'y a pas cette production de soi. Il faudra peut-être qu'on en reparle plus tard. Je crois qu'on est d'accord, en fait. C'est juste que... Je crois que je m'exprime un peu mal. Mais... Je vais y réfléchir. On va en reparler. Il faut que je connecte tous les liens, que je refasse la carte un peu de mes pensées.
Next question, I'll think.
J'ai une petite question pour toi, Jérôme. En fait, je me demandais dans quelle mesure on sait que Bourdieu, il a participé à introduire les textes de Cultural Studies, et une des hypothèses, c'est de dire, en quelque sorte, pour contrer justement des sociologues comme pourrait être Véret. Et je voulais savoir si, pour toi, c'est un fil historique qui peut être, une interprétation historique qui peut être bonne ou pas vraiment. Je ne sais pas si tu comprends ma question.
Je pense pas qu'il a introduit des chercheurs en cultural studies pour contrer forcément des gens.
C'était une. Ouais, je me suis mal exprimé, mais j'ai essayé de réduire. C'est la logique éditoriale derrière Bourdieu, en fait, qui a paradoxalement, c'est celui qui a introduit indirectement les premiers textes des cultural studies en tant qu'éditeur, en fait.
Ce que je sais pas, c'est. Alors, j'ai deux choses à dire. La première, c'est que je sais pas pourquoi il a pas traduit Hall, et pourquoi il s'est arrêté, en fait. Il a traduit, il y a des textes de Thompson, notamment Fabiani, enfin, je ne sais pas si vous avez vu, Jean-Luc Fabiani a sorti un bouquin récemment sur justement les différentes facettes de Bourdieu, les différentes époques, et à un moment, justement, il y a des textes de Fabiani, de Thompson, de Williams, même de Willis, dans Actes de la recherche en sciences sociales. Mais c'est vrai qu'il arrête, et c'est vrai qu'un nœud, c'est évidemment, c'est la question de l'autonomie relative, et du coup le clash au début des années 70 entre Passeron et Bourdieu. Mais quand on lit, notamment l'ouvrage qui s'appelle Richard Hogarth en France, je sais pas si il y a notamment un texte super intéressant d'un chercheur anglais qui raconte la manière dont... Enfin, on voit bien que les problèmes de langage, c'est toujours compliqué, même aujourd'hui, même maintenant. Et en fin de compte, il essaye d'expliquer tout le jeu de traduction entre le français et l'anglais et les réceptions, parce qu'en fin de compte, Passeron, quand il a dirigé la traduction de La culture du pauvre, il a fait donc une préface où il défend le fait que Hogarth est un sociologue et un théoricien, même s'il ne s'en rend même pas compte lui-même. Mais ensuite, je ne sais pas si vous savez que l'introduction de Passeron a été traduite en anglais et est parue dans un cahier du centre. C'est Richard Dyer qui a traduit l'introduction de Passeron Et en fin de compte, ça a surpris les Anglais parce que Hogarth est considéré comme un peu, d'une certaine manière, une démarche très novatrice par l'école Passeron-Bourdieu à l'époque, alors que déjà en Grande-Bretagne, il est considéré comme étant, disons, de la vieille garde parce qu'il est influencé par Lewis et tout ça. Donc, ce qui est assez troublant, c'est quand Hogarth dans l'ouvrage Richard Hogarth, Passeron dans l'ouvrage Richard Hogarth en France, il explique comment le processus s'est fait. Et en fin de compte, il dit qu'à un moment, c'est par hasard, il a acheté l'édition de poche parue en 1958 chez Penguin. Et il a lu, il a dit « Ah, c'est marrant, c'est bien ce truc ». Et après, il a dit « Tiens, peut-être on va le traduire », parce qu'il commençait à travailler en sociologie de l'éducation sur les héritiers, enfin le bouquin « Les héritiers, la reproduction », entre les deux. Et il se posait des questions, en fait, sur les classes populaires. Et ils trouvaient des éléments de réponse dans le bouquin de Hogarth, même s'ils étaient dérangés par plein de choses. Ils avaient des jugements de valeur, des choses, une vision un peu ancienne. Et donc, voilà, après, ils ont décidé de le traduire. Ça a pris du temps. Et en fait, c'est sorti en 1970. Mais ça s'est fait vraiment... En fin de compte, c'est pas vraiment pensé en tant que tel. Mais ce que dit Hogarth, c'est qu'il dit deux choses. C'est la première, c'est que, en fait, ça a eu un impact super fort sur les bouquins qu'ils ont fait ensemble, Bourdieu et Passeron, en sociologie de l'éducation, Hogarth, ça c'est la première chose. Et le deuxième point qui est fascinant, quand vous lisez Richard Hogarth en France, le bouquin, il y a une dizaine d'articles, c'est absolument pas contextualisé. C'est-à-dire qu'on sait même pas que c'est un chercheur en cultural studies, on sait pas qui... Hall est cité zéro fois dans le bouquin, dans l'ensemble du bouquin, Thomson est cité une fois, Williams deux fois, Hall zéro fois. Et donc, en fin de compte, Hogarth paraît comme un chercheur comme ça, qui a fait un bouquin, enfin, qu'on a fait deux, puisqu'après, sa biographie a été traduite par, justement, a été préfacée par Grignon. Mais c'est vraiment... Enfin, là, il y a tout un travail, je pense, à faire. Enfin, il faut qu'on fasse...
Merci. C'est très intéressant, cette question de l'aliénation. Mais si je me rappelle pas mal, Marx, à un certain moment, il a énoncé de cette manière la question des rapports de production. Les hommes se mettent ensemble pour produire et reproduire la vie. Donc, quand j'ai lu ça, j'étais jeune, je n'ai pas pensé privé-public. Produire et reproduire la vie, c'est dans tous les domaines. C'est laver les assiettes, je ne sais pas, chanter, caresser la main de quelqu'un. C'est un rapport de production de quelque chose qui ne sont pas forcément des biens concrets, matériels. Les rapports de production, dans le sens de reproduire la vie, je l'entendais comme ça. Peut-être je me trompe. Mais il y a aussi la question, plutôt que privée, publique, individuelle, collective. Dans le sens que si je suis seul avec une autre personne, ou alors tout seul, et j'ai produit, j'ai fait un rapport de production de quelque chose, est-ce que je suis vraiment seul?
Je n'ai pas compris votre dernière phrase. Pour la répéter.
C'est-à-dire, quand je dis bonjour à ma femme et je fais un sourire, est-ce qu'on est vraiment seul? Oh, cette manière de s'exprimer, elle est aussi dans notre histoire. Et pas individuelle, mais notre histoire à nous tous. Parce que je pouvais rentrer et rien dire. Et voilà, donc... Je ne sais pas, j'ai lu ça il y a très très longtemps, et donc la question, la remettre à nouveau à la réflexion, c'est très intéressant, mais je l'ai lu comme ça, donc je ne sais pas.
J'espère avoir compris la question. Pour moi, j'espère que ça répondra un peu à votre question, mais c'est la question de l'interprétation par les féministes marxistes, notamment les féministes marxistes italiennes, qui ont classé cette idée de dire bonjour à sa femme, cette communication fatigue interpersonnelle, comme une forme de reproduction de ce lien hétérosexuel, intime, comme ayant une fonction capitaliste dans l'économie. Ce n'est pas onéreux, ça n'a pas de coût, mais ça fait partie de ce que je dirais. Ce qui prête souvent à confusion, c'est que bon, si ce n'est pas gratuit, c'est forcément onéreux, ça coûte forcément quelque chose, ou pas forcément significatif, ça n'a pas forcément une signification. Mais le travail domestique est la clé du travail qui est intégral au capitalisme, qui fait partie intégrante du capitalisme. Donc, il y a toujours une tension. Il y a une autonomie relative dans ce genre de reproduction sociale du travail par l'affect, qui est toujours en tension avec le capitalisme. Tout ça, ça rend cet espace productif. C'est un espace productif. J'espère que ça répond à votre question. En tout cas, ça en parle un peu. Vous n'avez jamais entendu parler de ce genre de théorie?
Mais rapport de production, ce n'est pas synonyme de capitalisme ou non-capitalisme. Rapport de production, c'est tout. Après, les rapports de production ont chaque fois des formes historiques, je ne sais pas, qui changent. Mais les formes de production, c'est moi et quelqu'un d'autre. Enfin, quand tu dis, les hommes se mettent ensemble. Voilà, c'est ça la clé. Après, on produit des rapports de production qui ont des formes, dans lesquelles il y a aussi le capitalisme. Et je crois bien que j'ai une mentalité de macho italien qui sait bien le code pour embrouiller peut-être les relations avec les femmes. Mais et au-delà de ma condition historique, qui a des limites, bien sûr, je veux comprendre le mécanisme général, ces rapports de production qui, chaque fois, ils ont des formes différentes et qui, bien sûr, peut-être maintenant, ne sont pas bonnes, moi coupable aussi, mais qui pourraient être différentes.
Alors, c'est vrai, ils peuvent être différents. Moi, je me suis concentré sur le capitalisme, sur Marx, et donc sur le capitalisme, hein, évidemment, mais ce à quoi on revient, c'est la patriarchie. La patriarchie préexistait au capitalisme et continuera, même si on arrive à un régime socialiste, si on ne fait rien pour l'éliminer, évidemment. Alors, ce dont je parle ici, c'est cette idée de l'espace d'autonomie, l'espace pour articuler le soi. Il est souvent refusé à plein de gens, dans d'autres systèmes économiques aussi. Donc, il faut aussi penser ces autres relations de pouvoir qui sont à l'intersection avec les autres modes de production dominants ou les autres modes d'accumulation dominants. Pas forcément capitalistes, hein, dans d'autres sociétés. On voit qu'il y a de nombreux modes de production différents. Et pas simplement les modes de production des hommes blancs, hétérosexuels, dominants, etc. Donc, il y a une multiplicité, en effet. J'espère que ça répond un peu à votre question.
Hmm. d'autres questions?
Thank you for your presentation. I'm wondering about
je me demande
emancipation,
à propos de l'émancipation.
Alienation.
Vous avez parlé d'aliénation.
Sorry, if I got you right,
si je vous ai bien compris, l'aliénation, c'est pas être coupé d'un soi. Mais alors comment est-ce que comment y a-t-il émancipation dans le contexte, par exemple, de relations contraintes, de relations sociales contraintes. Si on revient aux cultural studies, vous avez parlé de production culturelle, comment elle pourrait être un acte de résistance. Donc je me demande où est-ce qu'on peut situer l'émancipation entre la politique de l'identité, la production culturelle et l'économie politique, grosso modo. Je ne sais pas. Je ne sais pas vraiment. Je suis toujours en train de travailler là-dessus. Cette idée d'éligibilité qui vient de la théorie queer, c'est une manière de penser la production culturelle qui est en dehors. Faire quelque chose d'un peu différent, c'est pas nécessairement dehors, complètement dehors, mais c'est en train de troubler les choses. Et ça, je ne sais pas trop. Je cherche. Je ne sais pas encore. C'est une nouvelle approche que je suis en train de prendre, et du coup, en termes de militantisme, en termes de lutte concrète, je ne sais pas trop. Si vous avez des réponses, par exemple, est-ce que vous considérez le fait que les hommes gays vont parfois redéfinir, est-ce que c'est un don ou un échange, est-ce que ce genre de jeu avec est-ce que ce genre de jeu sur l'échange peut être considéré comme une sorte d'émancipation? Oui, il y a du travail très intéressant sur lien entre marchandises et objets et les pratiques linguistiques. Mais à propos de ce qui se disait ce matin, sur le fait d'avoir cette base, nous devons savoir d'où viennent les objets, nous devons avoir ce socle de critique marxiste, ce socle de base. Mais ça ne répond pas vraiment à votre question. Il y a des problèmes à aller dans ce sens. Les subcultures, les études de fans, etc., les résistances rituelles, tout ça, ça a été un peu corrompu, disons. C'est devenu un peu parfois des contre-cultures, subcultures, contre-cultures, tout ça. Je ne sais pas où les nouvelles formes de contestation peuvent être. Il y a une critique politique intelligente qui peut distinguer entre subculture et contre-culture. Elle ne sera jamais universelle, mais je crois que ce travail-là a besoin vraiment d'esprit assez brillant pour trouver une nouvelle forme de critique. J'ai peur des je suis un peu perdu dans ce background post-structuraliste et du coup je viens d'abattre finalement toutes les cultural studies. Je suis désolé, mais je ne sais pas comment faire. Jérôme.
Thank you, Kylie, for your intervention and
merci pour votre présentation. J'ai hâte de lire le PDF de votre bouquin. Donc, je vous donnerai mon email. Je pensais à votre question, la réalisation de soi dans l'affaire domestique. Et vous en avez peut-être parlé dans votre livre, mais je pensais au cas... Un cas, une étude récente sur les ménagères. On ne connaît pas très bien ça en France, mais comment faire des meubles IKEA, du tourisme pour femmes, donc des blogs qui sont dédiés à ces questions de fabriquer ses propres meubles et de tourisme pour ménagères. Et pour moi, ça articule bien l'idée de la fabrique de soi, la fabrication de soi et la promesse qu'en tant que ménagère, votre temps libre a une valeur commerciale, marchande. Et je crois que ça complètement... Il y a un lien là, entre ces deux concepts. Hein. Je ne sais pas si je suis très clair, mais enfin, je pense que le lien est là. Il y a un ouvrage collectif sur ces questions récentes. Il y a deux chapitres sur les blogs de maman. Et donc il y a du travail intéressant sur cette marchandisation du blog, de l'espace privé, de l'écriture, etc. Et je crois que... Enfin, donc il y a des choses sur voilà, le blogueur qui met le soi en scène et comment cette blogueuse articule sa personnalité. Il y a beaucoup d'exemples dans cet ouvrage qui permettent un peu aussi du coup de rendre flou la nature marchande de certains gestes et inversement. Tout ça dans une logique de rendre marchand et d'intégrer le travail domestique au monde du travail, en tout cas de le rendre marchand. Et donc il y a une bien logique économique là, quoi. Moi je trouve ça fascinant comme objet culturel. Il y avait une autre partie de votre question, je crois. Non, non. C'est le travail de Sulapkin. Voilà. Sur les industries de l'artisanat, par exemple, aussi, qui ont tendance à jouer sur cette marchandisation.
J'ai une question pour Jérôme. En fait, le cas de Verret, ça m'a beaucoup interrogé parce que tu le fais résonner beaucoup avec les cultural studies. Mais du coup, en fait, j'aimerais savoir si tu peux développer sur... cette hétérodoxie, comment elle se manifestait, par exemple, en termes de méthodologie, concrètement, puisque en sociologie, c'est quand même si j'ai bien compris qu'ils étaient un petit peu marginaux en sociologie, j'imagine qu'il fallait quand même défendre leur bout de gras à la fois avec des concepts forts. Et donc, je me demande si déjà ces concepts, ils étaient, comme tu as dit, que potentiellement c'était avant les cultural studies, est-ce que les concepts étaient proches de ceux des cultural studies, d'autonomie des cultures populaires, ou est-ce qu'il y avait une autre manière de les formuler? Et aussi méthodologiquement, est-ce qu'il y avait une réflexion sur comment sortir du bourdivisme, justement, qui est lié à une forme de positivisme méthodologique?
En fait, ce qui est fascinant, c'est que la carrière de Verret, c'est bon, qu'au départ... voilà, c'est quelqu'un qui rentre dans la résistance en 43, donc qui rentre au Parti communiste et qui est orthodoxe en fait en quelque sorte et qui milite et qui est philosophe et qui commence à sortir des bouquins dès les années 50. Ce sont des bouquins de philo vraiment marxistes et notamment sur la question de la famille, du père, etc., mais aussi sur la question du travail. Mais qui est déjà tout de suite assez curieux, et notamment grâce à Althusser, il s'intéresse à la psychanalyse, il s'intéresse à beaucoup de chercheurs. Et puis après, en fait, si tu veux, c'est comme si sa trajectoire, c'était une trajectoire qui apparemment est celle d'une génération qui nous précède, qui croit vraiment que voilà, il va y avoir la révolution, etc. Et donc au début, il est très dur théoriquement. Et quand il arrive en sociaux, il est aussi très structuraliste, on pourrait dire. Mais au fur et à mesure du temps, il s'ouvre en fait à plein de choses différentes et il aime débattre avec des chercheurs d'un très loin, politiquement ou théoriquement. Et en fin de compte, le seul programme qu'il a, c'est qu'il fonde le LERSCO, donc avec Passeron au début, le laboratoire d'études et de recherche sur la classe ouvrière. Et donc, en fin de compte, toutes les thèses sont sur la classe ouvrière. Mais par exemple, ma prof, elle a fait une thèse sur le décor en milieu ouvrier. Évidemment, quand elle faisait du terrain, par exemple, elle prenait des photos, là, un mannequin de piste à côté de la Vierge Marie, avec derrière des tapisseries super criardes et tout ça. Voilà. En fait, il montre que, en réalité, la classe ouvrière, c'est pas la classe ouvrière qui est défendue ni par les gauchistes, ni par les communistes, etc., mais que c'est différent et qu'il y a des choses qui sont fortes et il y a des choses. C'est hyper riche, hyper complexe, et tous travaillent là-dessus. Et au début, évidemment, alors c'est plus les hommes qui travaillent plus sur la politique ou sur le syndicat, et les femmes, évidemment, il y a des. Tu vois, par exemple, il y a des fractures comme ça, mais qu'ils en sont conscients. Alors ils essayent de. En même temps, ça débat vraiment fortement. Et au fur et à mesure du temps, et on le voit quasiment dans les textes de Verret, c'est qu'il relâche sa façon d'écrire. Et enfin, il prend de plus en plus de liberté avec les sciences sociales. Et en fait, il devient, d'une certaine manière, un peu incontrôlable, quoi, si tu veux. Mais en même temps, comme il a une position forte, pour ça, ça me fait un peu penser à Hall, il a une position forte, il protège tout le monde. C'est-à-dire, si par exemple, il veut que Passeron, n'importe quel sociologue viennent à Nantes pour soutenir une thèse, ils viennent en fait, parce qu'ils connaissent, ils connaissent les gens, puis c'est forcément la caste, le ENS, tu vois. Et en fin de compte, le truc, c'est qu'à un moment, il part en retraite, à 60 ans pile, il dit bon, bah c'est bon, moi j'ai assez donné, maintenant je m'en vais. Et à ce moment-là, tout périclite, parce que le but, c'est d'arrêter ça. Donc, c'est lui, il évolue toujours au fur et à mesure. Il va de plus en plus loin dans les marges, quoi, on pourrait dire ça comme ça. Mais tout en gardant l'objet classe ouvrière. Et évidemment, en même temps, dans le fond, il y a le fait que il y a de moins en moins. Disons, le communisme s'écoule, les ouvriers. Devient de moins en moins important quantitativement. Le marxisme tombe. Quand il sort la culture ouvrière, les éditeurs lui disent « Mais tout le monde s'en fout de la culture ouvrière. » Déjà, les seuls, à la limite, il reste quelques radicaux politisés, mais eux, les ouvriers, ça les intéresse, mais pas la culture. Et en fin de compte, ceux qui sont intéressés par la culture, ils s'en tapent des ouvriers. Et donc, en fait, votre bouquin, il sort 20 ans trop tard. Le labo, il a plus de raison d'être. Alors, il y en a qui essayent d'élargir. Il y a un autre labo qui existe, un EA qui existe pendant 2-3 ans, qui s'appelle Laboratoire d'études et sociologiques sur la transformation et la culturation des milieux populaires. Mais en fin de compte, par exemple, sur la question des médias, il y a les cahiers du LERSCO, c'est un peu pareil, un peu comme les cultures, je te dis, il y a des gens, c'est assez libre, ils peuvent faire un cahier, et il y a des gens qui travaillent sur les médias, sur l'apparence, il y a des choses, mais voilà, ils restent scotchés, en fait, par rapport, je veux dire, aux Anglais, ils vont pas, ils restent sur la culture ouvrière. Je sais pas si je réponds un peu. C'est dommage que ce soit pas en anglais, mais un effort la prochaine fois.
Oui. Bon, si ça, oui, ça marche. En fait, c'est une question pour toi, mais en français. Déjà, je suis avec les microphones. En fait, c'était par rapport. Ça, c'est une question qui a réuni un peu toutes les questions qui ont été posées. C'est par rapport à cette histoire d'émancipation, aliénation et production. Parce que moi, j'ai l'impression que la production, même quand c'est de l'autoproduction des subjectivités, elle n'est pas très loin du capitalisme, parce que s'il n'est pas forcément capitaliste, le capitalisme se l'approprie. Du coup, j'ai l'impression que la production des singularités de la part voilà, des minorités, que ce soit queer, féministe, etc., c'est toujours pas loin de ce que le capitalisme peut en faire. Et du coup, par rapport à la question de l'émancipation, j'ai pensé pendant que je vous écoutais à une opposition qui est en train d'ouvrir les feux au Brésil actuellement. C'est l'opposition entre féminisme radical et féminisme libéral, ce qu'on appelle là-bas ici. C'est-à-dire qu'en fait, le féminisme libéral, il descend dans la rue en ce moment pour dire en fait, nous, on a le droit de le donner à qui on veut, etc. Genre, c'est-à-dire en fait, une revendication qui part d'un point de départ de l'affirmation de l'individu comme tel, de la singularité parfaite de ces femmes, à l'horizon politique nul, c'est-à-dire sans les connecter à tous les problèmes macropolitiques qui représentent une minorité dans un... Et voilà, quand je vois des applicatifs, donc spécialement par rapport à ces questions de digital et tout ça, quand je vois des applicatifs qui sont là pour se retrouver et parce que ça nous permet de nous singulariser en tant que queer, c'est quelque chose qui est un début des politiques, mais qui, à mon avis, si ces outils-là ne sont pas à un horizon macropolitique, c'est-à-dire voilà, se revendiquer comme minorité, voire même dans une intersection voilà, des luttes, j'ai l'impression que l'émancipation, voilà, c'est que de la production capitaliste, quoi, avec des sous-produits subjectifs.
Oui, je suis d'accord avec ça. Je crois... Sylvia Federici est très intéressante dans la manière dont elle regarde comment l'action collective des féministes a proposé des modèles importants pour le changement, la transformation. Oui, je crois que c'est juste. La question de l'éligibilité qui a été articulée dans la politique queer, mais la collectivité queer, oui, et peut-être un groupe qui devient éventuellement éligible. Lorsqu'on regarde l'identité queer, c'est une non-identité qui devient ensuite un travail comme un collectif, une non-identité qui travaille comme collectif est simplement éligible. Et en cela, ça devient une politique. Et si... Donc on regarde un peu l'idée de multitude chez Hart et Negri comme modèle pour la politique qui émerge de façon relativement autonome, une politique relativement autonome qui émerge, eh bien, ils étaient en train de s'intéresser aux formes de collectivité féministe et d'action féministe. Et je pense que ça marche comme modèle. Ça nous ramène évidemment aux femmes, peut-être pas. Pas exactement sur les couleurs, mais oui, je suis assez d'accord. Oui.
C'est juste pour dire que par rapport à ce que tu disais, si je peux me permettre, je pense qu'on est tous un peu d'accord, parce que évidemment, le nœud, c'est toujours la question de l'autonomie relative, et que, en fin de compte, par rapport au marxisme ancien, quoi, c'est l'important, c'est de pas appliquer des modèles comme ça qui trouvent la solution tout de suite, mais de regarder, c'est tellement fragile ce qui se passe. Moi j'ai pris juste un exemple, mais là c'était aussi un exemple, et notamment par exemple sur tout ce qui est le digital et tout ça, c'est vrai que ça, la question de la conjoncture et tout ça et de l'articulation là, elle est vraiment, elle est typiquement ça passe tellement vite. Alors évidemment, c'est vrai que la marchandisation et le fait que les gens, avec tous les sites de location d'appart et tout ça, on voit que les gens, je vois même, mes parents, ou les gens de la génération d'avant, ils commencent à se rendre compte que voilà, ils peuvent louer 3 euros leur tondeuse ou je sais pas quoi. Donc effectivement, qu'il y a ça, mais vraiment, il y a vraiment, moi je trouve ça vraiment intéressant dans les cultures, je te dise. À un moment, on est parti peut-être un peu trop loin dans l'autonomie, mais je pense ça qui est... Enfin, je dis, tout le monde est d'accord, je pense, je sais pas, en tout cas, mais... Alors que je dis qu'il faut pas dire de généralité, mais bon...
Du coup, c'était peut-être le mot de la fin. Eh ben, merci beaucoup pour votre participation. Et donc, on se retrouve demain à 11h15 pour continuer donc la discussion sur les questions féministes, avec donc une table ronde à 11h15 sur les Cultural Studies à l'épreuve des féminismes. Donc, à demain, et n'oubliez pas de rendre vos casques.